Le journal de 8h sur Europe 1. Bonjour Fanny Marceau.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des manifestants, c'est en ce moment même hein, sur le périphérique de Lyon, des chants qui résonnent aussi à Caen, à Lorient, à Dunkerque où des ports, dépôts pétroliers et incinérateurs sont bloqués. À Mérignac, l'accès à l'aéroport est entravé. Partout, à l'aube de cette 9e journée de mobilisation, la première depuis le déclenchement du 49-3, au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision, partout, les contestataires sont en ordre de bataille.
Alors Charles Guyard, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rennes, où c'est un peu la nouveauté du mouvement là-bas aujourd'hui. Les lycéens vont rejoindre la mobilisation.
Des sacs poubelles entassés, des containers empilés.
C'est quoi le but ?
De bloquer, pour montrer qu'on est là, qu'on veut se faire entendre.
Le jour était à peine levé que 5 jeunes militants de l'Union Pirate des Lycéens étaient déjà à l'œuvre pour bloquer l'une des nombreuses entrées du lycée public Brequigny de Rennes.
Le blocus, c'est absolument indispensable, on a bien vu, parce que les actions classiques ne font pas réagir le gouvernement, absolument pas, encore moins Emmanuel Macron. Donc c'est un des derniers moyens qui nous reste pour vraiment montrer qu'on ne se laissera pas faire, qu'on pense à tout le monde. C'est le combat social qui se joue.
Même organisation devant le lycée Zola dans le centre-ville. Ici, c'est plus facile. Il n'y a qu'une seule entrée à condamner. Impossible donc d'aller en cours. Exception faite quand même pour ceux qui passeraient des examens. En tout, 9 établissements rennais auraient été bloqués ce matin. Nathan, du collectif Pirates des lycéens.
Donc après, on part pour rejoindre la manif à 11h.
Manifestation particulièrement redoutée ici, compte tenu des derniers débordements la semaine dernière, après lesquels Gérald Darmanin a décidé d'envoyer sur place en renfort une compagnie spéciale de CRS.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 à Rennes.
Alors c'est de plus en plus tendu dans la rue. La manifestation du jour pourra-t-elle se dérouler dans le calme? C'est toute la question.
Hein. Les services de renseignement prévoient 40 000 à 70 000 manifestants à Paris, dont près de 800 à 1200 gilets jaunes qu'il faudra surveiller de près. William Molinier, les autorités craignent que la mobilisation ne se radicalise aujourd'hui.
Un esprit de dernier baroud. C'est ainsi que le renseignement parisien qualifie la mobilisation du jour dans une note qu'Europe 1 s'est procurée. La physionomie de la mobilisation change. Les jeunes dans les cortèges étaient jusqu'à présent très politisés, la plupart activistes ou militants. Mais depuis quelques jours, les policiers observent l'arrivée dans le conflit de jeunes perturbateurs sans revendication politique particulière. Une jeunesse perçue par le renseignement comme galvanisée par les occupations de voies publiques. Les lycéens vont aussi gonfler les cortèges. Tout comme les collectifs féministes, écologistes et de sans-papiers. De leur côté, les gilets jaunes sont grisés par le climat insurrectionnel selon les termes du renseignement. Enfin, dernière crainte, cette fois-ci du côté des syndicats. Les organisations s'inquiètent de la flambée de violence qui pourrait éloigner les familles des cortèges et laisser la rue aux plus radicaux au risque de voir le mouvement leur échapper au profit des grévistes les plus jusqu'au boutistes.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Notez que 33 forces mobiles seront déployées à Paris, dont 16 rien que pour le périmètre place de la Concorde, Matignon-Élysée. Au total en France, 12 000 policiers mobilisés, dont 5 000 dans la capitale.
Et ce matin, le ministre du Travail se dit serein et attentif à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Olivier Dussopt qui rappelle que l'adoption du texte est une victoire.
Dans tout le pays, les grèves vont impacter les transports. Un TGV sur deux, un TER sur trois et presque aucun intercité. 20 à 30% des avions annulés. À Paris, la plupart des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe aujourd'hui. Ce matin, la CGT perturbe un dépôt de bus à Pantin. Par ailleurs, les raffineries, à l'exception de celle de Fézin dans le Rhône, sont toujours à l'arrêt.
Et puis dans les écoles primaires, on attend 40 à 50% d'enseignants en grève. La grève, les manifestations, certains patrons n'en peuvent plus.
Plus encore quand leurs enseignes sont dégradées par les manifestants en colère. Éric Haddad est le patron d'un réseau d'intérim. L'une de ses agences à Nantes a été endommagée, c'était le 11 février dernier. Pour lui, trop, c'est trop.
Les chefs d'entreprise en ont ras-le-bol. Les gilets jaunes, le Covid, les grèves, on nous bloque. Mes salariés, mes permanents qui ont envie de travailler, quand ils ne peuvent pas aller en fait dans leur mission ou quand ils ne peuvent pas venir travailler dans nos différentes agences, sont obligés de s'absenter, de mettre ça ou en congé payé ou en absence. Alors oui, peut-être, ok, le droit de grève est constitutionnel. Par contre, prendre les gens en otage et les salariés en otage qui veulent travailler, c'est anticonstitutionnel. L'impact sur l'activité, c'est un manque de chiffre d'affaires, un manque de production, un manque de pouvoir d'achat pour nos intérimaires et nos collaborateurs. Vous savez, les chefs d'entreprise, on se lève le matin, on a tout mis sur la table, on est garant, on est caution, on est confronté au remboursement du PGE et tous les jours, on se bat pour maintenir les salaires de nos collaborateurs. Tous les pays européens, on est tous en train de travailler jusqu'à 66 ou 67 ans, sauf que malheureusement, la valeur travail en France a été complètement abandonnée. C'est dramatique.
Éric Haddad au micro Europe 1 de Margot Faudéré.
Voilà, et puis ce tweet plein d'optimisme signé Emmanuel Macron. Hier soir, je vous en cite une partie. Il y a des moments moments difficiles qu'il faut assumer. Je suis sûr qu'on saura s'unir pour l'avenir du pays.
Le chef de l'État espère effectivement rapidement tourner la page des retraites et il veut le faire avec Elisabeth Borne, à qui il demande d'élargir la majorité afin de pouvoir légiférer sereinement. Mission quasi impossible en pleine crise politique. Situation qui n'est pas sans rappeler la 4e République. Pourquoi ? Que s'est-il passé durant la 4e République ? Piqûre de rappel avec le tuto de la rédaction d'Europe 1, signé Arthur Delaborde.
Ce régime qui a duré de 1946 à 1958 vivait au rythme de l'instabilité. Cette période a vu se succéder pas moins de 22 gouvernements. Ils tenaient en moyenne 7 mois chacun. La 4e République consacrait la souveraineté parlementaire et la primauté du pouvoir législatif. Le gouvernement dépendait de l'Assemblée, élue à la proportionnelle et non du président, désigné par les parlementaires et cantonné à un rôle de représentation. Problème, ce régime a débouché sur l'impossibilité de trouver des accords sur de nombreux sujets, et c'est justement pour pallier ces carences que la Constitution de la 5e République a été rédigée par le gouvernement de Gaulle. Les pouvoirs de l'exécutif ont alors été considérablement renforcés.
Arthur Delaborde.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. 8h08, c'est l'heure du petit déjeuner. Vous mangez peut-être un croissant en ce moment même. Savez-vous seulement ce qu'il y a vraiment dedans ?
60 millions de consommateurs s'est posé la question et a fait analyser 13 croissants industriels issus des chaînes de boulangerie ou de l'espace viennoiserie des supermarchés. Résultat, ils sont trop gras, ils sont trop sucrés, trop salés, on en avait une idée. Mais ils contiennent aussi, et ça c'est moins connu, des traces de pesticides, Delphine Shields.
Dans presque tous les croissants industriels analysés par 60 millions de consommateurs, on trouve du piperonyl butoxide. Explication avec Patricia Chéropoulos, journaliste en charge de l'enquête.
C'est une substance que les agriculteurs vont utiliser pour booster, si vous voulez, l'activité des pesticides. Donc c'est signe effectivement qu'il y a déjà usage de pesticides, si vous voulez.
Et justement, sur les 13 croissants étudiés, issus de supermarchés ou de chaînes de boulangerie, la moitié contient des résidus de pesticides. Certains croissants cumulent même 3 différents en très petite quantité. Est certes dans les limites autorisées, mais l'exposition commence dès le petit déjeuner.
Ce qui est ennuyeux, c'est d'en trouver déjà dans un produit de gourmandise, et puis surtout, c'est qu'on en trouve là, mais on en trouve malheureusement dans énormément de produits industriels. Il peut y avoir une accumulation exposée à une multitude de résidus de pesticides, et dont on ne connaît pas justement les effets cocktails.
Alors pour ne pas se priver, on peut privilégier les croissants faits maison chez le boulanger, une fois de temps en temps, pour le plaisir.
Delphine Shields.
Allez, on termine ce journal avec un record du monde en bleu, blanc, rouge.
L'immense joie des proches de Simon Billy, nouveau recordman de ski de vitesse. Hier dans les Hautes-Alpes, il a été flashé, tenez-vous bien, à 255,5 km/h. Écoutez la fierté du skieur français.
C'était un run de fou. J'ai bossé énormément pour ce jour-là. Mon père s'est retourné direct, il m'a dit aujourd'hui c'est pour toi. Aujourd'hui, je bats ce record du monde. C'est un feeling incroyable. Je vais profiter. Je vais faire la fête ce soir. Et on va retourner au travail pour aller encore plus vite.
Il lâche rien, hein, Simon Billy. 255,5 km/h, c'est hyper rapide.
Sur des skis.
Je vous sens admirative. Hein,
ah oui, incroyable.
Il faut la faute de car, elle doit faire mal, là, effectivement. Merci beaucoup,
merci
Fanny Marceau. C'était votre journal.
À suivre dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, le Club de la Presse, à 8h40.